Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 27e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle
peut.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 juillet 2005, jour de la Sainte Marie-Madeleine. Et comme le dit la chanson, pied de cochon, Marie-Madeleine.
Pied de cochon, Marie-Madeleine.
Eh bien, justement, comment peut-on acheter un pied de cochon ou ça sera à peu près le thème de l'émission d'aujourd'hui puisqu'il s'agira de comment et où faire ses courses, quelque chose dans ce genre là. Donc aujourd'hui un comité un petit peu restreint après un bon nombre de défections puisque nous ne sommes que trois.
Je voudrais juste préciser que c'est après un bon nombre de défections et non pas de défécations.
Oui, c'est pas la même chose, quoi qu'on sait pas pourquoi. Donc si, je sais que Numa et Flo ont très peu dormi, par exemple. Numa a une lèpre sous-jacente sous le pied, donc il peut plus trop marcher, enfin des choses horribles. Oui, il a des... Me regarde pas comme ça, il a des crevasses au pied, voilà, c'est dû à son grand âge. On déballe sa vie, il est pas là, hein. Donc on explique à nos auditeurs pourquoi il est pas là.
Pourquoi il est pas venu en marchant sur les mains?
Bah, c'est un feignant. Puis il sait pas faire. Cray, lui, il avait une réunion au boulot. Voilà, un vendredi soir, comme ça, un truc qui finit tard, il est fatigué, il veut pas venir. Bon, c'est crédible, tu penses que c'est crédible, toi?
Je suis pas sûr.
C'est vrai, c'est bizarre. Et en plus, donc, on a qu'un seul micro pour trois.
Il manque Béa aussi, mais elle a vraiment une bonne excuse, elle est en vacances.
Voilà, elle est en vacances ailleurs. Donc alors,
en Bretagne au soleil, c'est une blague pour ceux qui ont de l'humour.
Et nous remercions nos amis bretons de nous écouter.
Encore.
Voilà. Donc alors les personnes qui seront avec nous pour traiter du sujet de l'émission, les courses, machin et tout ça, ça sera Valérie.
Bonjour.
Bonjour Valérie. Donc ça fait deux émissions de suite, ça fait longtemps que t'avais pas fait deux émissions de suite. Hein.
Ben, avant, j'ai fait deux enfants de suite, c'est pour ça.
C'est vrai que ça prend du temps. Mais les émissions aussi. Hein. Et Ariane aussi, qui va animer le débat. Avec un seul micro pour trois, bon courage.
Aussi.
Non mais voilà, c'est tout. T'aurais pu dire bonjour, c'était bien. Hein.
Mais en fait, tu m'as un peu bloqué, parce que j'allais dire bonsoir, mais du coup...
On peut dire bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure les gens écoutent. Donc voilà, aussi à noter un truc, on s'est aperçu que apparemment maintenant on commençait à avoir plein d'auditeurs. C'est incroyable, non?
J'espère que vous allez écouter aussi une deuxième émission maintenant que vous en avez écouté une première.
Bah ils te répondront que s'ils ont écouté la deuxième.
En fait, il faut en écouter beaucoup pour savoir celle qu'on préfère. Parce que comme ça dépend des sujets.
Donc voilà, et à partir de maintenant, il y en a 27. Donc eh ben, nous allons commencer. Et hop. Voilà. Donc alors, le débat de l'émission d'aujourd'hui est comment, où faire ses courses. Et Ariane va nous en dire un petit peu plus. Vas-y Ariane, à toi. Et bon courage, n'oublie pas de passer le micro aux autres quand ils veulent parler.
D'accord, vous me ferez des grands signes, je pense que je vous verrai. Donc comment et où, pas exactement, on va dire plutôt comment, dans quelles circonstances, pourquoi, etc., etc. Alors c'est vrai que du coup on se retrouve en comité réduit, c'est un petit peu dommage parce qu'on avait un joli panel de personnes faisant leurs courses. Donc on se retrouve avec un couple sans enfant. Une maman avec enfant. Il nous manque donc la célibataire qui vit au 6e sans ascenseur. Ce qui nous aurait fait un joli panel pour les expériences de course. Bon. Maintenant, alors on va pas dire pourquoi fait-on ses courses, bien évidemment, parce que faut bien bouffer. Mais comment on fait? Et donc j'avais choisi plusieurs axes. Vous allez pouvoir réagir en fonction de ce que j'ai, on va dire, choisi de façon complètement arbitraire. À commencer par les grandes surfaces, parce que c'est souvent de ça dont on parle quand on dit maintenant faire ses courses. Et le grand débat, c'est les grandes surfaces, la mort du petit commerce. Voilà. Donc peut-être des réactions déjà dans un premier temps.
Oui, Valérie, une réaction?
Alors, je voudrais d'abord préciser que je suis vraiment une experte dans ce sujet. C'était une très bonne idée de m'inviter puisque j'ai fait mes courses mardi dernier. Donc, pour tout vous dire.
Ça, bravo, ça, c'est de la conscience professionnelle.
Bon, j'ai fait mes courses au supermarché, en effet. Donc, il y a aussi des petits commerces près de chez moi. Et je voulais dire, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a aussi des grandes surfaces de hard discount. Alors, c'est là que les argenteuillets vont, hein. Je vous précise tout de suite, si vous allez dans un supermarché classique, Carrefour, Auchan ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'argenteuillet. Les argenteuillets, ils sont dans les trucs de hard discount. Bon, pour ce qui est du petit commerce...
C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de Carrefour, Auchan, argenteuillet...
Les rayons. Et aller faire chier les petites mémés qui sont là aussi parce qu'elles ont envie de voir des petits jeunes. Et comme ça, ils se rencontrent entre petits jeunes, entre vieilles mémés. Non, c'est très sympa pour ça. Mais c'est pas eux qui tuent le petit commerce, hein, ça je peux vous dire. Hein. De toute façon, ils font pas de courses, ils ont pas d'argent. Tout ce qu'ils achètent, c'est du shit avec ce qu'ils ont comme argent. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est affreux ce qu'elle dit, Valérie. Bon, je vais laisser parler quelqu'un d'autre du petit commerce parce que je sais pas du tout quoi dire là-dessus pour l'instant.
Je finis de mâcher. Ariane, une réaction?
Idiot, parce qu'il sait pas, il fait pas les courses. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on dit très souvent. Le super ou hypermarché a quand même un côté, il faut bien le reconnaître, extrêmement pratique. C'est-à-dire qu'on trouve presque tout au même endroit. Bon. Mais après, il faut effectivement voir ce qu'on trouve sur place, quoi. Alors bon, il y a un choix de marque pour certains types de produits de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que on trouve tout ce qui est fruits et légumes bien calibrés, bien jolis, bien brillants et sans goût de préférence.
Qu'est-ce que tu entends par bien calibré?
C'est-à-dire qu'ils ont tous exactement la même forme et la même taille.
Or, c'est une utopie, ça n'existe pas, ça.
De préférence environ 20 cm de longueur et 3 cm de diamètre. C'est la bonne taille pour un légume.
Pour les tomates, c'est un peu plus difficile.
Parle dans le micro, Ariane, s'il te plaît.
Non, je disais ça pour les tomates, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté extrêmement pratique. Alors, mort du petit commerce, oui ou non, je suppose qu'on n'arrivera probablement pas ce soir à avoir la réponse. Parce que après, quand on veut des produits de, on va dire, de qualité, notamment dans les produits frais, c'est surtout là-dessus que ça se joue. Il y a quand même des gens qui, dans leur quartier, font énormément de courses.
Je pense qu'un des autres très grands plus des petits commerces, en fait, c'est le service. Ce que je veux dire, c'est que quand on va chez le boucher, que le boucher dit bonjour Valérie, enfin, il dit pas bonjour Valérie, il dit bonjour Madame M, pour ne pas dire mon nom de famille. Comment allez-vous? Et les petites filles, elles vont bien? Et vous prendrez bien deux tranches d'aloyau, comme d'habitude, ou je ne sais quoi, parce que de toute façon, j'achète très peu de viande chez un boucher. C'est quand même vraiment sympathique et on apprécie d'y aller. Moi, j'ai eu une période où justement j'allais chez un boucher et je n'achetais plus de viande au supermarché à cette période-là. Mais par contre, les fruits et légumes, j'allais pas chez le marchand de primeur en face parce que l'accueil n'était pas aussi bon. Ça compte énormément, je pense, cet aspect.
Oui, mais l'aspect accueil et l'aspect il y a l'aspect qualité aussi. Il y a des petits commerçants où la qualité est pas toujours au rendez-vous, alors que le prix souvent l'est. Et dans les supermarchés, moi je sais par exemple ma maman, pour ne pas la citer, habite en région d'Orangel et elle va toujours faire ses courses dans le même supermarché. Au rayon fromage, ils la connaissent. Alors ils connaissent pas son nom et tout, mais ils la reconnaissent. Elle tape un petit peu la discute avec eux et tout. On peut avoir aussi, alors c'est pas dans tous les supermarchés, c'est peut-être effectivement un peu rare, mais on peut avoir ça aussi dans les supermarchés. Les petits commerces, si vraiment ils veulent s'en sortir, ils peuvent toujours pratiquer les mêmes prix, mais ils doivent vraiment avoir le service et la qualité, et principalement la qualité. Si quand on va chez le boucher du coin, on paye notre viande 150 francs le kilo et qu'on n'a pas mieux.
Tu sais que ça fait longtemps qu'on est passé aux euros.
Oui, non, mais c'est pour les gens du troisième âge qui nous écoutent et qui n'ont pas encore bien assimilé le quoi ?
L'euro.
Oui, Valérie, une remarque sur le troisième âge ?
Non, sur l'euro, mais je sais pas roter comme ça sur commande, c'est dommage. Sinon, ce que je voulais faire comme remarque, c'est que même pour les prix, des fois aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a des petits commerces qui peuvent être moins chers qu'un supermarché. Je pense entre autres, par exemple, en ce moment, moi j'achète beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De puériculture, de matériel de puériculture. Ben, y a une petite boutique près de chez nous qui est moins chère que le supermarché. Ils n'ont pas forcément des produits de marque, mais on trouve une petite turbulette, un siège de bain ou des choses comme ça, vraiment pas cher. Bon, ceci dit, je sais qu'on n'achète pas tous les jours un siège de bain, j'en ai conscience. Et surtout qu'il n'y avait pas ma taille.
Bizarrement.
Je vais laisser parler ton verre qui voulait dire bizarrement.
Bah bizarrement. Donc voyez un petit peu, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une sacrée gymnastique de parler à trois dans un micro. Donc le micro, lui, se promène. Je suis sûr que personne ne se rend compte de rien, c'est pour ça que je fais une petite, un petit intermède ou un petit aparté. C'est un. Un intermède, un aparté, il n'y a pas une. Ça n'existe pas pour ce genre de mode. Si d'ailleurs, une diversion, voilà, merci, Ariane. Ariane qui a gagné le droit de prendre le micro.
Chouette, je suis contente. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, ma maman, c'est pareil, pour ne pas la citer, fait ses courses dans le même supermarché depuis 30 ans. Et effectivement, elle discute avec la fromagère, elle discute avec la fille qui s'occupe des saucissons et des saucisses et de la choucroute, voilà.
Je voudrais pas dire, mais c'est vrai que ta mère discute.
C'est vrai, donc c'est peut-être plus facile de lier la discussion avec elle. Donc
peut-être que la mienne aussi, bon.
Un peu, quand même. Oui, mais bon, les gens qui sont là pour servir n'ont peut-être pas forcément envie de discuter, ils sont pas obligés non plus, hein. Donc bon, il reste quand même... après, bon, ça dépend peut-être des endroits, de la taille des super, des hyper, des endroits où ça se trouve. Est-ce que s'il y a un hypermarché perdu en race campagne et où tout le monde dans le coin vient faire ses courses, on se connaît aussi bien que dans un petit village et que si tout le monde allait chez le même commerçant. Donc est-ce que ça tient à des lieux, à des implantations, à des régions ? Grande question, voilà, est-ce que...
Je crois qu'il y a toute une partie secteur de vente. Il y a des secteurs qui ne sont absolument pas du tout menacés par le supermarché, en fait. Je pense par exemple aux petits traiteurs chinois. Allez-y, trouvez des raviolis aux crevettes au supermarché. Il y en a un petit peu, mais franchement, les traiteurs chinois sont vraiment très très peu menacés. Les bars PMU aussi, pourtant c'est un petit commerce, hein. Parce que alors là, allez faire vos courses dans un supermarché. Enfin, vos courses, je veux dire vos courses de PMU, votre quintet plus.
Les sex shops aussi.
En effet, les sex shops, tout à fait. Mais ça, comme j'y vais jamais, je n'y ai pas pensé. Mais ton verre qui est habitué...
Ce sont des petits commerces aussi.
Et c'est même le seul endroit où ton verre est allé faire ses courses la semaine dernière. C'est vous dire comme il connaît.
C'est pas vrai.
Non, mais je pense vraiment qu'il y a des domaines dans lesquels les supermarchés n'ont pas envie d'entrer en concurrence ou je sais pas, où ils n'y arrivent pas. Je saurais pas. Pas trop vous dire, et puis voilà, je sais plus quoi dire.
Si, justement, à ce propos, effectivement, il y a des domaines dans lesquels ils sont, on va dire, malheureusement incapables d'entrer en concurrence. Et pourtant, ce sont des petits commerces qui ont quand même tendance à disparaître. Ce sont des commerces du type cordonnerie, quincaillerie, parce que maintenant, aller trouver une quincaillerie, même en ville, où vous allez trouver de la vis de 4 ou du machin chouette ou un truc... du blanc d'Espagne ou de la terre de sommière ou quelque chose de super précis, ben d'abord c'est difficile de trouver une quincaillerie et vous cherchez ça en grande surface, ben c'est voilà, c'est il y a de références et puis c'est terminé. Alors effectivement après Leroy Merlin comme tu dis, pas de pub, enfin le truc avec le triangle vert là, enfin tout le monde l'aura reconnu, se spécialise effectivement, mais du coup le conseil, le alors là on peut peut-être se demander
Mais ça, effectivement, donc on parlait de supermarché, on parlait surtout de nourriture dans un premier temps, mais là on aborde la grande distribution de produits, notamment là on parlait de bricolage, on peut parler aussi
J'appellerais bien ça les vis de 4 et autres nourritures intellectuelles.
Voilà, oui, mais l'électroménager, donc des Darty, des choses boulangers, des choses comme ça, où là, effectivement, on a quand même un conseil qui est à peu près proche du néant. D'ailleurs, comme on a le temps, je vais vous raconter une petite histoire. Pour enregistrer l'émission que vous êtes en train d'écouter en ce moment, j'ai acheté un baladeur mini-disque. Qui est de très très bonne qualité, hein. Je vois les filles qui font oui de la tête et les auditeurs aussi.
Surtout, il est bleu.
Voilà, il est bleu.
Je fais pas oui, je mange du gruyère.
C'est pareil. Et donc j'ai posé quelques questions au vendeur qui était là et censé me renseigner. Donc il y a une prise USB dessus où on est censé pouvoir. Donc dans la notice, ils disent qu'on peut télécharger des choses du PC vers le lecteur mini-disque. Et moi, je lui ai demandé si on pouvait faire le contraire. Parce que moi, j'enregistre par exemple l'émission et j'aimerais bien pouvoir la récupérer directement sur le PC sans être obligé de passer par, je vous passe les détails techniques, mais des choses beaucoup plus longues. Bon, plus c'est long, plus c'est bon, mais pas toujours. Et le mec m'a dit oui, pas de problème, moi, je lui ai dit, vous êtes sûr? Parce que je m'étais un peu documenté et justement, j'avais trouvé que des choses très floues sur ce sujet-là. Et effectivement, une fois l'appareil en possession, eh bien, ça marchait pas dans l'autre sens, ça marchait que dans un sens, comme on pouvait l'imaginer. Donc le mec m'a dit complètement le contraire, en imaginant que ça, c'était la seule chose qui allait me le faire acheter, je pense. Et donc, soit il en savait rien et il a dit ça au hasard, soit il a voulu m'entuber et depuis, j'arrive plus à m'asseoir.
Bon, j'espère que nos auditeurs sont très contents de découvrir que cette émission est une émission surprise. Et finalement, au lieu de faire une émission sur les courses, on fait une émission sur les coulisses de l'émission. Alors, vous voyez, par exemple, on se passe le micro, on a un lecteur mini-disque. Je peux même vous dire qu'il y a un bulgum sur la table. Oui, et Ariane va vous dire aussi d'autres informations très croustillantes. Bon, je peux aussi vous dire que Valérie bégaye, des informations très croustillantes sur la fabrication d'une émission de radio.
Non, on revient sur les courses, on parlait des courses. Je prenais un exemple qui avait attrait à la radio.
Donc ton verre est un tyran, voilà une information croustillante sur les coulisses de l'émission.
Je suis un tyran, je vois le micro passer devant moi, parce que je suis évidemment entre les deux filles, hein, on n'est pas non plus complètement fou. Et le micro n'arrête pas de passer devant moi, alors quand je l'attrape, ben, je parle. Pour raconter ben, ce qui me passe par la tête, et bon, ben, ouais, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Oui, Ariane? Non? Oui, non, décide-toi. Non,
c'était pour donner une précision sur la dernière chose qui avait dû passer par la tête, mais c'est peut-être pas la peine.
Ouais, donc revenons au débat de l'émission d'aujourd'hui, qui ne vole malheureusement pas bien haut. Donc les courses, comment, où, donc on en était au discount. Voilà. Donc là, plus personne n'a plus rien à dire. Si.
Bah, à vrai dire, le discount, ça marche vraiment de mieux en mieux et ça m'étonne pas beaucoup parce que on se rend compte que les produits de marque ont vraiment, les prix ont vraiment beaucoup beaucoup augmenté et tant qu'à s'acheter un produit premier prix, pourquoi l'acheter au supermarché? Pourquoi ne pas acheter un produit premier prix dans un magasin discount où le produit premier prix sera encore moins cher? Sans compter que je sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez moi, ça s'appelle la F du S, hein, pour pas faire de pub, donc il y a donc un magasin discount. Les fruits et légumes sont moins chers, bien sûr, qu'au supermarché, mais aussi meilleurs. Donc finalement, on achète ça, on en profite pour acheter des cagettes de 3 kilos de cuisses de poulet et je ne sais quoi. C'est vraiment pas cher. Bon, les gnocchis sont pas très bons, hein. Je voudrais pas faire de l'anti-pub non plus, mais les gnocchis sont pas très bons dans la F du S. Ceci dit, c'est quand même, ça vaut vraiment le coup, surtout pour tous ces gens qui perdent de plus en plus en pouvoir d'achat. Et il y en a. Ne les oublions pas, même si il y a certains partis qui ont tendance à les appeler la France du bas et à ne plus considérer qu'ils existent.
Donc, si on veut résumer en ce qui concerne les grandes surfaces d'une façon générale, donc il y a ceux qui perdent du pouvoir d'achat et qui ne vont que chez les hard discounters. Il y a ceux qui vont dans les supermarchés et les hypermarchés parce que c'est pratique et qu'on y trouve tout et qu'on gagne du temps. Et puis il y a une troisième catégorie, je suppose, qui s'emmerde la vie, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, à faire plusieurs enseignes de magasins selon la qualité des produits qu'elle veut trouver, ou le goût, ou... Je suis sûre qu'il y en a.
Je sais pas si je suis la seule, enfin moi je le fais pas forcément énormément en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont capables de faire leurs courses au supermarché et puis d'acheter des petits plus en fait dans les petits commerces. C'est ce qui marche quand même pas mal. Bon, sans compter aussi tous les Parisiens, mine de rien. Ah ah, parce qu'à Paris, il n'y a pas de supermarché. À Paris, il y a quelques petits trucs, des Monoprix, des machins comme ça. Il y a des quartiers où il n'y a vraiment rien d'autre que des petits commerces. Et je peux vous dire que quand on habite rue Saint-Jacques, bon, on a payé son appart la peau du cul. Et en plus, eh ben, il faut aller au marchand de poissons, puis au marchand. Donc le marchand de poissons, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, voilà. Et puis aussi, après, au marchand de primeurs, etc. Et puis bon, il n'y a pas de chanson sur le marchand de primeurs, donc je suis désolée. Bon, il y a pam-pam-pam, pam-pam-pam, poire aux pommes de terre. Quand même. Voilà.
Oui, tout à fait. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ariane.
Donne, moi j'ai un truc à dire. Donc, ce qui nous amène à, alors, à Paris, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on fait ses courses différemment selon les régions ou selon les villes? Donc, Paris intramuros, probablement, il y a probablement des endroits où on n'a pas le choix de faire autrement que faire ses courses chez les petits commerçants parce qu'il n'y a que ça. Et c'était une idée qui m'était venue comme ça. Faire les courses chez les petits commerçants de son quartier, est-ce que c'est aussi parfois pas un snobisme, une mode, se trimballer avec sa poussette façon Burberry's, pardon, on a dit qu'on citait pas de marque, mais à carreaux plus moderne que ceux qui ressemblent aux charentaises de nos grands-mères, de passer de l'un à l'autre pour discuter, pour se faire voir dans le quartier, pour voilà. Est-ce qu'il n'y a pas votre avis?
Moi, je vais t'avouer un truc. Je t'ai pas écouté. J'ai juste entendu votre avis. Et forcément, je vais avoir beaucoup de mal à donner un avis sur ce que tu viens de dire. Je pourrais donner un avis sur d'autres trucs, mais on va sortir du débat.
Mais tu m'écoutes jamais.
Mais si. Par contre, Valérie a un avis à te donner.
Donc, je vous parlerai pas du couple ton verre Ariane. C'est rigolo, mais c'est pas beau. Non, je pense en effet qu'il y a toute une histoire de mode en fait, et aussi un petit snobisme de jeunes. J'ai l'impression que en général, moi j'ai été étudiante à Paris. En général, les étudiants sont là. Ah enfin, je ne suis plus en banlieue, machin. Je vais faire mes courses chez les petits commerçants. Et puis bon, disons qu'au bout de 3 semaines, ils ont plus d'argent. Et puis ils disent, les mois prochains, maintenant, je vais aller manger au resto U. Et puis peut-être que j'irai acheter du pain chez le boulanger encore. Hein. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais il y a quand même un petit peu, oui, cet aspect, se dire, non, moi je vais chez les petits commerçants, pouvoir un petit peu crâner devant les collègues. J'y crois très fort, en fait. Et puis aussi, montrer, non, mais c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on ne connaît pas ses voisins, la preuve, moi je connais mon fromager. Il y a sûrement un peu de ça aussi.
Il faut quand même avouer que les fromagers, les poissonniers, ça devient quand même des petits commerçants, ça pue, oui. Et ça devient quand même assez rare, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, on trouve quand même encore des boulangeries, des boucheries, des charcuteries, des tas d'autres choses. Mais les poissonneries, les fromageries, pas tant que ça, quand on sort, parce que vous parlez Paris, Paris, Paris. Mais Paris n'est pas la France.
Il y a aussi Argenteuil.
Il y a aussi Argenteuil. Oui, il y a aussi.
Et il y a aussi la Croix-Rousse. Alors, je précise, la Croix-Rousse est un des quartiers de Lyon où on est relativement chauvin, même par rapport aux habitants de Lyon. Voilà. Donc ça me fait penser à une chose. Effectivement, on parlait de snobisme et de mode. Alors on s'est pas tellement appesanti en début d'émission sur beaucoup de chiffres, depuis quand existent les premiers supermarchés, etc., etc. Alors Valérie a l'air de savoir. Moi je dirais dans les années 60 ou 70 les premiers supermarchés. Donc je pense que ça a révolutionné la vie de la ménagère. Donc tout le monde courait au supermarché. On a probablement à ce moment-là constaté peut-être un déclin de certains petits commerces qui revient effectivement maintenant pour une question, on le disait tout à l'heure, de mode ou de snobisme. Et ça, alors d'expérience, en revanche, je peux le dire et on va rebondir ensuite sur un troisième endroit où on peut faire ses courses, c'est le marché, qui est très à la mode. Donc autrefois, on faisait ses courses au marché comme on respirait. On y allait tous les jours pour trouver les produits, on va dire, les plus frais. Donc je parlerai d'expérience du marché de la Croix-Rousse à Lyon, qui est un très gros marché où pendant des années on voyait les petites vieilles avec leurs caddies, leurs cabas, des mères de famille nombreuses, etc. Et puis maintenant, ce sont des gens mais sapés, mais pas comme pour aller sur le marché. Une fille qui sort maquillée jusqu'aux oreilles. Avec, d'abord, on se demande si en sortant de boîte et en rentrant, enfin, elle est pas rentrée chez elle, quoi. C'est pas possible. Elle vient directement sur le marché. Ou des types en costard. Et je suis désolée, un costard, on s'habille pas comme ça pour aller faire le marché. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui va autour. Et ça, je sais que ça a surpris pas mal de monde. C'est qu'il y a, sur le marché de la Croix-Rousse, on va acheter ses primeurs, effectivement, pour la semaine. Et puis, on va acheter un petit peu de saucisson, et puis un petit peu de fromage. Et puis après, on va se poser dans les cafés autour. On commande un ballon de rouge ou un ballon de blanc. Et on sort ce qu'on a acheté sur le marché. Voilà. Quoi, deux?
Deux ballons, oui.
Bah, il en faut un pour se désoiffer, et puis le deuxième pour pousser le saucisson ou pour pousser le fromage. Et ce qui est vraiment étonnant, les commerçants, effectivement, enfin les bistrotiers acceptent ça parce que ça fait aussi tourner leur établissement. Mais on sent qu'il y a un véritable phénomène de mode. Se retrouver le dimanche entre copains, c'est très sympathique, pour manger du saucisson, du fromage, acheté directement sur le marché. Voilà.
Mais ça, c'est typique de certains quartiers chics des grandes villes. Hein. Je ne voudrais pas revenir à ma ville à moi, mais je peux vous assurer qu'il n'y a absolument aucun côté snob à aller faire ses courses au marché près de chez moi. C'est un marché où en fait il y a énormément de maghrébins, donc c'est très spécial. Enfin, moi du coup j'ai beaucoup de mal, parce que quand je vois devant moi un bac énorme rempli de 100 kilos de cuisses de poulet, ben, tout écrasé les unes contre les autres, et ben je dois avouer que ça ne me fait pas envie du tout. Et à côté, bon, ben, il y a un bac énorme rempli d'ailes de poulet, et puis encore à côté des bacs énormes remplis, surtout pas de côte de porc, ça y a pas. Non, c'est un marché immense près de chez moi, il y a un charcutier et personne d'autre que le charcutier ne vend de porc. Mais enfin bon, tous ces bacs immenses. Bon, les primeurs, ça va mieux, et je peux vous assurer, il n'y a pas un bistrot autour de toute façon, mais que les gens n'y vont pas pour sortir, quoi. C'est pas du tout ce qui se fait. Mais c'est vrai, en même temps, je suis tout à fait d'accord avec Ariane qu'il y a des endroits où ça se fait de plus en plus. Par exemple, à Montreuil, on y a marché là en fin d'après-midi maintenant. Quand on enregistre une émission à Montreuil avec Quoique, on peut passer au marché juste avant. Incroyable. Peut-être que ton verre va au marché maintenant que c'est snob et que c'est à la mode.
Bah non, je vais pas au marché parce que non, c'est en fin d'après-midi. Ah ouais, c'est l'heure de l'apéro. Et puis les marchés le matin, je dors, donc non. Je ne vais pas au marché. Non, mais les marchés, c'est... Il y a un côté un peu pittoresque qui est assez agréable. Pittoresque parce que peut-être notre génération, ou peut-être juste nous autour de cette table, on n'en a pas eu l'habitude. On est peut-être né à une époque où c'était beaucoup moins, justement, à la mode et moins... Enfin, il y a eu une période où il y avait des marchés et c'était normal qu'il y ait des marchés. Il y a eu une période où il n'y a plus beaucoup de marchés, et puis là maintenant, depuis quelques années, mais enfin assez récemment quand même, ça devient une mode. On va au marché, on peut trouver des produits de grande qualité qu'on peut pas trouver ailleurs, genre des tomates plein champ qui ressemblent à rien, énormes, mais qui sont délicieuses. On trouve pas ça ailleurs qu'au marché, et des tas d'autres choses. Et oui, Ariane, tu voulais me voler le micro. Et ça tombe bien parce que j'avais plus rien à dire.
Oui, tu parlais effectivement de phénomène de mode. Je pense qu'il y a des marchés qui sont restés très populaires, c'est-à-dire qui sont restés ce qu'ils étaient, c'est ce que Valérie évoquait tout à l'heure. Et puis il y a des marchés selon les quartiers qui sont devenus un peu plus mode, un peu plus en vogue, parce que je crois qu'il y a notamment dans le phénomène de mode, depuis quelques années, un retour au terroir, à la nature, aux choses d'antan. Et c'est, je pense, aussi surtout ça qui crée le phénomène de mode, je suppose, hein, je peux me tromper, sur les marchés, voilà, en eux-mêmes. Voilà.
Voilà, donc, et toi, t'as quelque chose d'autre à dire, à part les cuisses de poulet et les ailes de poulet? Non.
Je peux vous parler des cuisses de grenouille, si vous voulez. C'est très bon avec de l'ail et du persil, mais c'est un peu gras. Non, pas forcément au marché, mais voilà, je voulais vous parler de cuisses. Donc, de cuisses de grenouille, pour changer. Je vais laisser ton verre, parce que j'ai l'impression que je suis nulle en débat.
Non, tu es très bonne.
Fais gaffe à ce que tu dis, toi.
Toi aussi, tu es très bonne. Donc, et ben, encore. Malheureusement, il va falloir conclure ce débat passionnant. Donc, Ariane, une petite conclusion? Ou une grosse, hein?
Oui, non, il y a juste un petit quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Effectivement, Cray n'étant pas là, nous ayant fait faux bond au dernier moment, il y avait une chose que je lui avais demandé de creuser un petit peu, qui aurait pu être intéressante, et je pense que quelque chose qui ne bougera jamais, qui ne souffrira ni des phénomènes de mode, ni de l'implantation des hypermarchés. Ce sont les petites épiceries, des pots de pain, tabac, quincaillerie, des petits villages où il y a souvent même pas une église et un bistrot, et où il faut quand même qu'il y ait un petit commerce, et où je pense c'est un véritable plaisir d'aller, même si quand on quitte ses parents et qu'on revient quelques années après, la commerçante ne vous reconnaît pas forcément, mais vous dit oui, vous êtes le fils de un tel, comment ça va, les études, alors que ça fait 10 ans que vous avez arrêté vos études. Et qui sentent bon le fond de la France, voilà la conclusion. Enfin, si elle te va.
T'aurais pu faire une vraie conclusion, hein. C'était ton débat quand même, hein. Valérie, qu'est-ce que t'en penses?
Mais ce genre de petite épicerie, en fait, mon expérience, moi, c'est que dans un village, en général, on voit les petits villages de campagne, par exemple en Charente. Les habitants vieillissent, les petites épiceries deviennent des pharmacies, et puis quand les habitants sont morts, et ben les pharmacies ferment. Voilà, c'est triste, mais j'ai vu ça dans plusieurs villages.
Bah oui, c'est triste, hein. Là, je pense que tout le monde est plombé. Hein, la désertification rurale et tout, il fera l'objet d'un débat prochain, hein, où on pourra parler des commerces en campagne.
Pour remonter le moral de tout le monde, je vais raconter l'histoire du fou qui repeint son plafond. Donc c'est un fou qui repeint son plafond. Et alors là, il y a un autre fou qui arrive dans la pièce et qui lui dit « Tiens bon le pinceau, j'enlève l'échelle. Fais-moi un peu de rire.
» J'en ai des vrais quelque part qui traînent. Je vais te mettre des applaudissements plutôt. Donc elle les entend pas parce qu'elle a pas de casque. On a un micro et un casque. Donc vous voyez un peu dans la misère dans laquelle on se trouve. Donc d'ailleurs, si vous voulez faire des dons, hein, faites-en. On vous dira plus tard où. Donc voilà, c'est la fin de ce débat qui a sûrement fait avancer les choses. Maintenant, vous savez pourquoi vous faites vos courses et où. Donc, nous allons passer aux chroniquettes dans un enthousiasme général. Voilà, ça c'était l'enthousiasme, mais ça me fait... Voilà, en plus, je suis tout perdu. Donc, excusez-moi pour le blanc. Et bien voilà, après ce débat passionnant qui sûrement fera tourner le monde dans l'autre sens, nous allons passer aux chroniquettes et nous allons commencer par Valérie qui a un sujet de chroniquette qui a un rapport avec le thème du débat incroyable. Jamais ce n'était arrivé à l'époque où il n'y avait qu'un seul thème pour toute l'émission. Oui, ça n'était arrivé, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est Jacques Toubon qui l'a dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu, Jacques Toubon? Quelqu'un a une idée? Non? Non? Donc, nous allons passer aux chroniquettes. Valérie, donc, toi, tu vas faire une chroniquette sur...
Alors, je vais vous parler des différences de vocabulaire qui peuvent exister entre le marché et le supermarché, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant. Et en fait, j'ai écrit une scénette. Vous allez voir, c'est une histoire passionnante. En gros, c'est l'histoire d'une dame qui fait ses courses et qui achète des courgettes. Je vous en dis pas plus.
C'est des courgettes.
Des courgettes. Donc, Ariane demande ce que c'est que des courgettes. Donc, pourquoi des courgettes? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que des courgettes pour les auditeurs qui ne savent pas? Donc, c'est un légume vert qui fait 20 cm de long. Donc, 20 cm de long et 3 cm de diamètre. Donc, un vrai légume.
Bien calibré.
Il s'agit donc d'un légume bien calibré. Et pourquoi des courgettes? Parce que les courgettes, c'est pas trop cher. L'hiver, on mange des carottes. Et l'été, des courgettes. C'est ça qui est pas cher. Voilà.
Des courgettes râpées?
On peut manger des courgettes râpées. On peut les râper aussi pour faire un gâteau à la courgette. C'est une recette américaine. C'est des trucs à la con.
Je connaissais le gâteau concombre. C'est pas bon.
Non, c'est pas bon, mais à la courgette non plus, hein.
C'est une histoire drôle, tu dois la connaître, tu pourrais nous la raconter peut-être pour détendre l'atmosphère.
Bon, alors, c'est un enfant qui va chez le boulanger et qui lui dit « Bonjour, monsieur le boulanger, est-ce que vous avez des tartelettes au concombre ?» Le boulanger dit « Bah non, j'ai pas de tartelettes au concombre. » Et puis, alors le petit garçon, il s'en va un peu déçu. Puis le lendemain, il revient « Bonjour, monsieur le boulanger, vous avez des tartelettes au concombre ?» Puis « Bah non, j'en ai pas. » Et troisième jour, pareil, et puis il vient avec ses copains, et ils viennent à 5-6, et puis tous les jours, pendant 10 jours, tous les soirs, ils viennent voir le boulanger, puis ils font « Bonjour, monsieur le boulanger, est-ce que vous avez des tartelettes au concombre ?» Et le boulanger, qui en a toujours pas, se dit « C'est pas possible, c'est trop bête, je suis en train de perdre de la clientèle, ils veulent pas de bonbons, pas de fraises tagada, ils veulent pas d'éclairs au chocolat, ils veulent des tartelettes au concombre. Qu'à cela ne tienne, je vais faire des tartelettes au concombre. » Il fait des tartelettes au concombre, et le lendemain, forcément, les enfants arrivent « Bonjour, monsieur le boulanger, vous avez des tartelettes au concombre ?» Et le boulanger leur dit « Bah oui, regardez, vous avez de la chance, justement, j'en ai fait une dizaine aujourd'hui. » Et là, les enfants qui disent ensemble « C'est pas bon, hein ?»
Mort de rire. On n'est que trois, mais on rigole vraiment comme si on était une quinzaine. Merci. Donc tu peux attaquer ta chroniquette après ce petit moment de détente. Merci Valérie.
Ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'humour, hein. Incroyable. En fait, j'ai fait rire les voisins, c'est pour ça que ça s'est très beaucoup entendu. Donc les différences de vocabulaire. Donc je vous raconte ma petite histoire. Donc c'est madame Michu qui va au marché. Elle prend un cabas. Sur l'étalage, il y a des courgettes. Alors elle demande une livre de courgettes au marchand de quatre saisons. À la limite, elle aurait aussi pu demander un demi-kilo de courgettes au marchand de primeur. Mais c'est quand même un peu moins marché. Bon, c'est la saison, alors le rapport qualité-prix est bon. « Ah, les courgettes, vous m'en direz des nouvelles, ma petite dame. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. »« Oui. Et avec ceci, ma bonne dame, ce sera tout. »« Bon, dans ce cas, ça vous fera 1 euro tout rond. » Et puis elle paye avec une pièce. La même histoire au supermarché, qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir les différences et ensuite, attention, hein, il y a un exercice. Ensuite, vous devrez me dire quelles sont les différences. Différences, non pas dans l'histoire, mais plus dans le vocabulaire, hein, et dans les expressions. Alors, donc, madame Michu va au supermarché. Elle prend un caddie. Dans le rayon fruits et légumes, en tête de gondole, il y a des courgettes. Elles sont en solde. Tant mieux pour son pouvoir d'achat. Elle positive. Elle veut en prendre 500 grammes. Donc bon, elle a pris une quantité au hasard. Et à la pesée, elle constate qu'elle en a pris 643 grammes. Et à la caisse, « Bonjour madame, c'est 1,23 €. » Et elle paye en carte bleue. Et comme me disait Darty, c'est normal parce que la pièce d'un euro est dans le caddie. Alors, quelle différence il y a entre les deux textes? Ton verre qui n'a rien écouté pourra nous le dire.
Si, c'est pas pareil. Il y a deux histoires différentes, hein, si j'ai bien compris. Il y a un truc qui se passe chez le petit commerçant. Et puis il y a une histoire qui se passe dans un supermarché et la pièce d'un euro, elle était dans le caddie. Voilà, à toi Ariane. Là, j'ai tout compris.
Ouais, mais ça pas toujours parce que des fois dans le caddie, c'est pas une pièce d'un euro qu'il y a, c'est un jeton. Alors si c'est un jeton qu'il y a dans le caddie, on peut éventuellement payer ses courgettes au supermarché avec sa pièce d'un euro, mais seulement si ça dépasse pas.
Je vais vous faire une petite revue des petites différences qui peuvent exister. Au marché, on prend un cabas. Au supermarché, on prend un chariot. Ensuite, au marché, on voit l'étalage. Alors qu'au supermarché, c'est des gondoles avec des rayons. Enfin, c'est des rayons avec des gondoles. Et puis, il y a la tête de gondole. Quand on est au marché, qu'est-ce qu'on demande quand on veut 500 grammes de quelque chose? On demande une livre, on demande un demi-kilo. Quand on est au supermarché, on se dit dans sa tête, bah, j'ai besoin de 500 grammes. Bon, sauf moi qui suis un peu snob et qui dis toujours une livre, mais il paraît que ça fait très marché et très snob, justement. Comme quoi, le snobisme du marché. À quel rayon on va quand on est au marché? On va au marchand de quatre saisons, on va au marchand de primeur, alors que c'est le rayon fruits et légumes au supermarché, tout bêtement. Bon, on regarde vachement le rapport qualité-prix quand on est au marché. Quand on est au supermarché, on regarde les promotions et les soldes, hein. C'est comme ça. Bon, sans compter que au marché, le marchand vous appellera ma petite dame, alors que la caissière au supermarché vous dira madame. Enfin,
ton verre, comment te disent les marchands au marché ou au supermarché?
Ah bah c'est la première fois que je vous vois. Parce que c'est pas que j'y vais pas souvent, hein. Mais ils me reconnaissent jamais, donc ils me disent rien.
Ils disent, et pour le petit monsieur là, ça sera quoi? Ils disent ce genre de choses. Ils disent aussi, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Alors qu'au supermarché, vous en avez un petit peu plus et c'est vous, quand vous le pesez, qui vous en rendez compte. Et en plus, vous vous rendez compte que c'est vraiment 643 grammes. Alors qu'au marché, on vous dit qu'il y en a un peu plus que 500 grammes, mais vous inquiétez pas. Le kilo était à 2 euros, je vous le fais à 1 euro, je vais pas faire les comptes. Bon, il y a tout ce genre de petites différences, voilà, qui sont un petit peu des différences comportementales, puis aussi toute une série de différences de vocabulaire et d'expression. Et avec ceci, ce sera tout, comme dit la chanson.
Eh bien, bravo. Toi aussi, tu veux dire bravo ?
Oui, je veux dire bravo et puis apporter une petite précision linguistique à propos du cabas et du chariot. Effectivement, on a tendance à dire, il y a quand même une chose sur laquelle le supermarché et le marché se retrouvent, mais ça doit vraiment être la seule. Non, mais non, je suis pas chiante. J'aime bien les choses précises. C'est le caddie. Parce que on dit un caddie au supermarché, parfois, au lieu de dire un chariot, et que caddie, à l'origine, c'est une marque de poussette à carreaux pour aller faire son marché. Voilà, c'était tout. Mais je pense qu'effectivement, ça doit vraiment être le seul point commun.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Valérie, pour cette chroniquette. Et merci beaucoup, Ariane, pour cette précision linguistique. Eh bien, pour la première de Quoique en odorama, Ariane va nous parler des perles. À toi, Ariane, merci.
Non, je crois que t'as pas bien compris. Je ne vais pas parler des perles qui font du bruit et qui génèrent des odeurs, mais je vais parler des perles qu'on enfile. Voilà, tu sais, c'est celles qu'on met sur un fil de nylon, un fil de...
C'est vachement plus trash, les perles qu'on enfile.
Oui, mais en fait, elle va nous parler d'un inverti qui fait partie de ses amis, grosso modo.
Qui c'est ?
On a dit qu'on citait pas de marque. Voilà. Non, je vais vous parler des perles. Je vais essayer d'être assez général, on va dire, parce que le sujet est quasi inépuisable. Donc, les perles qu'on enfile, hein, celles avec lesquelles on fait des bijoux, des colliers, des gris-gris, des... Ça y est, il y a ton verre qui se sent plus. Alors, quand ? Depuis quand ? Forcément, hein, il faut que je garde ma petite partie historique. Donc, les premières perles qu'on retrouve, enfin, si on peut véritablement appeler ça des perles, j'ai révisé, hein, quand même, on trouve moins 38 000 ans, enfin, 38 000 ans avant notre ère. Voilà. JC, avant Jean-Claude, oui. Moins 38 000 avant notre ère, en fait, c'est... alors, je voudrais pas dire de sottise, ça doit être le paléolithique ou le néolithique ou quelque chose dans ce genre-là. On retrouve surtout des matériaux soit naturels, soit animaux, des matériaux animaux. Donc, des dents, des os, de l'ambre, ça s'échangeait beaucoup.
Et pas de pierre, parce qu'à l'époque du perlolithique, ça devait être des perles en pierre.
Ah si, attends, j'y venais. L'ambre, bon d'accord, je sais, l'ambre est une concrétion, c'est un fossile, je crois, l'ambre, si je dis pas de sottises, à part l'ambre gris qu'on trouve dans le fond des cachalots, mais voilà, donc les pierres également, les coquillages, dans lesquels on a dû commencer à percer des trous pour les mettre sur des fils, pour se les mettre autour du cou, enfin essentiellement autour du cou ou des poignets, je suppose. Voilà. Les premières perles travaillé, c'est 21e siècle avant notre ère, c'est chez les Égyptiens, c'est vachement dur à dire, donc c'est tout ce qui est verre et pâte de verre. Quoi, non ? T'es pas d'accord ? Ah, c'est facile, bah vas-y.
Les Égyptiens.
Ah bah oui, en se concentrant et en articulant, forcément, c'est pas compliqué à dire.
C'est parce que moi je fais de la radio.
D'accord. Merci. Moi, c'est occasionnel, hein. C'est pour ça que je bégaye un peu plus. Donc ça, c'est pour ce qu'on retrouve en fait de plus ancien. Et puis, petit à petit, on a commencé à travailler les matériaux. Donc, il y a de la fonderie, il y a du, je voudrais pas dire de sottise, il y a du bronze, il y a effectivement du verre.
Il y a un truc qui me paraît intéressant et où je voudrais m'arrêter deux secondes, c'est les perles en bronze. J'aimerais que tu creuses un peu la question, s'il te plaît, merci.
Creuser, ça va être relativement difficile, puisqu'en général... Ça va être difficile puisque on ne les enfouissait pas sous terre, mais on pratiquait la technique de la cire perdue, si je dis pas de sottises.
Mais alors, où est-ce qu'on les trouve, ces perles-là ? Ces perles en bronze. Je voudrais en profiter pour requalifier la chronique d'Ariane, qui n'est pas donc une chroniquette, mais une chronique anale, tout simplement.
Merci pour cette précision, Valérie. Effectivement, je n'y aurais pas pensé toute seule. Donc, non, les perles en bronze, on pratique la technique de la cire perdue, c'est-à-dire qu'on fait, d'abord une ébauche en cire, qu'on entoure souvent de glaise, et puis quand on verse le métal en fusion, ça fait fondre la cire, d'où la cire perdue. Voilà. Parce qu'après, on récupère pas la cire, forcément. Elle est perdue. Voilà. Enfin, c'est vraiment pour schématiser, hein. Avec les clés. Voilà. Merci. Merci de me rappeler mes sottises. Donc les perles aujourd'hui, alors après, mais vous avez fini de parler. Si ce que je dis ne vous intéresse pas, il faut le dire tout de suite.
Ça nous passionne, mais comme tu monopolises le micro, on discute entre nous comme les gens devant leur poste de télévision. Non, ça a aucun rapport.
Bon, je suis désolée de te décevoir, Ariane, mais je pense qu'il y aura des gens qui discuteront en écoutant l'émission. Si tu sais, parmi nos éditeurs, il y en aura. Parmi nos très très nombreux auditeurs, j'ajouterai.
Bon, d'accord. Alors, je vais sinon donner une petite précision ensuite, on va dire ethnologique et linguistique. Bon, je vais me dépêcher, et puis tant pis, on parlera pas du verre contemporain en matière de perles. C'est que en anglais, le terme, le mot perle se dit bead, qui vient de l'anglo-saxon BD, non, BD, B-E-D-E. Qui signifie, je crois, prière. Et en fait, pour les gens qui ne savaient pas compter, ça servait de repère pour dire ses prières. Voilà.
Donc en fait, si j'ai bien tout compris, les perles viennent du bide.
Aussi, quand on change de registre, tout à fait. Et donc pendant très longtemps, effectivement, la perle a été, un apanage religieux. Donc on fabriquait, bien évidemment, enfin, en tout cas pour... on fabriquait notamment des chapelets dans la religion chrétienne, mais on fabriquait certainement beaucoup d'autres choses dans d'autres religions. Donc aujourd'hui, on en fait beaucoup plus des bijoux. Le chapelet, c'est un peu révolu. Quoique, on peut trouver dans les brocantes de très jolis chapelets à démonter pour se faire des colliers, parce qu'il y a des très jolies perles dessus. Voilà. C'est aussi un truc pour les gens qui aiment se faire des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Je sens que je m'enlise un petit peu. Non, mais je pourrais en parler en fait pendant très très longtemps. Effectivement, là, j'ai juste commencé le début du sujet.
Bon, ce que vous savez pas, c'est que toutes les émissions de Quoique, en fait, à chaque fois que Ariane ne parle pas, c'est parce qu'elle a son aiguille et ses petites perles devant elle et qu'elle passe son temps à faire des colliers. Et voilà, en effet, elle est passionnée, quoi. On ne peut pas l'arrêter. Elle a toujours son aiguille à la main. Ton verre est piqué de partout. C'est affreux. C'est la vie d'une passionnée.
Moi, j'ai bien essayé effectivement de lui enfiler quelques perles, mais il a pas tellement aimé ça. Enfin, surtout avec l'aiguille. Voilà. C'est trop petit. Voilà, c'est beaucoup trop petit. Enfin, pour dire, c'est une passion, un petit peu comme je crois qu'un bol de perles de verre, ce qu'on appelle de la semaille de verre, c'est un peu comme pour ceux qui ont vu le film Amélie Poulain, c'est un véritable plaisir de tremper ses doigts à l'intérieur, un peu comme Amélie Poulain qui trempe ses mains dans les sacs de lentilles chez le petit commerçant du coin. Et effectivement, créer, c'est devenu aussi très très à la mode de faire ses propres bijoux, mais c'est quand même un véritable plaisir parce que créer, avec, tu sais, avec un accent, les choses que tu ne mets pas sur, ou que tu mets là où il faut pas, comme sur Marie-Madeleine, pas dans le bon sens. c'est un véritable plaisir. Bah, du coup, tu m'as fait perdre le fil. C'est malin. Dariane. Mais ça me permet de gagner du temps pour essayer de retrouver mes idées, en fait. Non, c'est un véritable plaisir. On fait aujourd'hui des choses très très jolies en matière de vers, des mots, selon les provenances, c'est-à-dire selon les pays. Il y a vraiment des choses extrêmement typiques et on peut effectivement sortir des perles en bois ou en verre toutes simples qu'on trouve dans les magasins de bricolage quand on voyage, faire un petit peu les marchés ou les petites boutiques en dehors des centres-villes pour trouver des perles vraiment typiques et vraiment très très belles. Voilà, pour se faire soi-même ses propres bijoux. Enfin, je parle beaucoup de bijoux, mais on peut faire d'autres choses aussi avec. Donc, avoir une touche très personnalisée et avec à moindre frais, j'allais dire, par rapport à ce qui peut se vendre en matière de bijoux et avec une très belle matière première. Voilà.
Merci beaucoup, Ariane, pour toutes ces perles. Non, c'était pas décousu comme collier. Ça se coupe pas en collier. Toi qui t'y connais en couture, Valérie, qu'est-ce que t'en penses ?
On peut broder des perles sur des vêtements, parce que justement, Ariane disait qu'on pouvait faire d'autres choses que des bijoux avec des perles. J'ai tout de suite pensé qu'on pouvait aussi parfumer son intérieur avec une bonne perle. Mais on peut aussi broder des perles sur un tissu, sur des vêtements, sur des sacs, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des fois des loisirs créatifs féminins, et j'ai l'impression que c'est ce que pense ton verre là. Je ne le sens pas très enfileur de perles là-dessus.
Si, je suis très enfileur de perles, mais j'avoue que là je comprends plus ma passion. Donc Ariane, merci beaucoup pour toutes ces histoires de perles, et merci. Voilà. Et bien maintenant, c'est à moi de faire une chroniquette. Donc je vais vous avouer que je suis bien embêté, parce que comme normalement on devait être beaucoup plus nombreux, j'avais pas le temps de faire une chroniquette, donc j'ai rien préparé du tout. Donc j'ai une petite idée, c'est de lancer un débat avec les filles pour qu'elles me trouvent un sujet de chroniquette en moins d'une minute, et que pendant les 4 minutes qui restent, même pas, je traite d'un sujet de chroniquette. Donc j'attends que Ariane revienne avec la quiche, après les perles. Elle a beaucoup de passion dans la vie. Donc Valérie, vas-y, lance le débat, et allez-y toutes les deux, proposez.
Ton verre, j'aimerais connaître la différence entre un artisan et un industriel.
Ça pourrait être un bon sujet de débat, mais c'est un peu triste pour une chroniquette. Là, on rentre dans de la philosophie et tout. Je sais pas, Ariane, qu'est-ce que t'as à proposer ?
Rien pour l'instant.
Rien pour l'instant, elle coupe la quiche. T'as une deuxième proposition ?
Peux-tu nous expliquer les liens entre la CAO et le calcul ?
J'ai peur que ce soit un petit peu rébarbatif. Mais je pourrais, hein, c'est un petit peu mon métier. Ariane, la quiche. Non, enfin, quand je dis Ariane, la quiche, vous me comprenez.
Et si tu nous racontais l'histoire de ton instrument de musique, le trombone à coulisses ?
Le mien ou l'histoire du trombone à coulisses en général ? Non, parce que l'histoire du trombone à coulisses en général, je la connais pas. Par contre, je connais l'histoire de mon trombone à coulisses. Donc ça va être passionnant. Ben moi, rien qu'à y repenser, je m'ennuie. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie d'un coup. Donc en fait, comme on en a parlé à la dernière émission, soit la 26e, qui se déroulait chez donc justement Valérie et Darty, qui Darty n'a malheureusement pas pu venir avec nous ce soir parce qu'il garde ses deux filles.
Et mon trombone à coulisses.
Et son trombone à coulisses, parce que Valérie aussi joue du trombone à coulisses. Donc voilà, je fais de la fanfare. Et j'étais jeune, insouciant, étudiant, j'ai rencontré des gens qui faisaient justement donc de la fanfare. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, moi aussi je ferais bien de la fanfare. En plus, ça les intéresse. Toi, je vous avais dit que ça allait être ennuyeux. Tout de suite, alors je le dis pour les auditeurs, je commence à raconter mon histoire et tout de suite, bah, se mettre à manger de la quiche.
De combien de morceaux est composé ton trombone?
De gros morceaux avec les petits.
En combien de pièces sais-tu le détacher?
Je sais le détacher en 3 morceaux. Même plus que ça. 1, 2, 3, 4. Et il y a un cinquième morceau qui n'est pas fixe sur le. C'est ce qui sert à serrer la partie 1 sur la partie 2. C'est-à-dire la coulisse avec le reste. C'est passionnant.
Je voudrais préciser aux auditeurs que donc la partie 1 et la partie 2 sont fixées l'une sur l'autre, la partie 3 est fixée sur la partie 2 et la partie 4 est fixée sur la partie 2 également.
Il y a un écrou prisonnier sur la partie 2 qui permet de visser la partie 1 et sans perdre l'écrou.
Ça y est, ceux qui ne voient pas à quoi ressemble un trombone à coulisses, ça y est, vous avez tous visualisé l'instrument maintenant ?
Grâce à l'écrou prisonnier. C'est un peu comme une balle au prisonnier, sauf que ça n'a absolument rien à voir. Moi j'ai déjà joué à la balle au prisonnier, l'écrou prisonnier, t'as déjà joué à l'écrou prisonnier toi Ariane? Et la bouffe ça quiche, elle s'en fout. Là.
Alors la différence par exemple c'est que la balle au prisonnier, il n'y a qu'une seule règle. Alors que quand on joue du trombone, on peut jouer plusieurs partitions différentes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et justement, je voulais dire que le trombone de ton verre est donc séparable en 4 morceaux, mais par contre, il joue plus que 4 morceaux. Cite-nous un petit peu des morceaux que tu sais jouer.
Des morceaux que je sais jouer? Non, mais là, ça va impressionner. Donc, je sais jouer la Pitchouli, qui a valu à la fanfare dont je suis parti un prix illustre. On l'a déjà dit la dernière fois, mais rappelons-le. Le prix de la plus mauvaise interprétation au championnat du monde de fanfare de Vic Fezensac. Et fait extraordinaire, c'est qu'on a eu le prix de la plus mauvaise interprétation et on n'a pas fini dernier. Ce qui est quand même, je vois le public ébahi, tu m'étonnes. Je sais jouer aussi Le Lion est mort ce soir. Puis on s'en fout un peu, hein, c'est pas... Si ça...
Alors ton trombone, tu l'as acheté neuf ou il avait déjà eu l'occasion d'avoir un bon joueur devant son embouchure autrefois, avant?
Alors je ne l'ai pas acheté neuf, mais il était comme neuf, parce que l'ancien propriétaire n'était pas un bon ni bon tromboniste, ni tromboniste du tout. En fait, il l'a acheté et il en a quasiment jamais joué. Donc je me suis chargé de l'abîmer moi-même dans diverses manifestations. C'est une interview là que tu me fais, vas-y.
Bon, on aimerait aussi savoir par exemple si ton trombone s'est déjà baigné dans la mer, quelle est son altitude maximale aussi à laquelle il est allé, des choses comme ça, tu vois, des vraies informations intéressantes sur ton trombone.
Non, il s'est jamais baigné dans la mer, mais par contre il s'est quand même régulièrement baigné dans des bassins de villes sur les places principales et tout, des choses sympathiques, sous des jets d'eau, l'altitude maximum... Très peu finalement. C'est un trombone assez terre à terre qui. Oui.
Mais il descend quand même très très bas, le trombone.
Même en dessous du.
Au sol grave. Mais c'est pas le trombone, hein, c'est moi qui suis fort. Hein. En tant que tromboniste, qu'est-ce que t'en penses, Valérie?
Ton verre est très fort en trombone, enfin surtout, je veux dire, en niveau sonore, il est très fort en trombone.
Oui, il paraît que j'ai la réputation de jouer fort. C'est peut-être parce que je joue avec des gens qui ont les oreilles sensibles.
Une règle importante pour tous les trombonistes et futurs trombonistes qui nous écoutent, le trombone se joue gras et fort.
Il y a deux positions au niveau volume, c'est on-off.
Non, il y a deux positions au niveau volume, il y a on et l'autre, je me souviens plus.
D'accord. Eh bien voilà, bah c'est bravo ton verre, c'est ouais, magnifique interview, chroniquette et je sais pas trop quoi. Et on attend la suite pour la prochaine avec impatience. Eh bien voilà, c'est fini. Oh, quelle tristesse. Après cette magnifique émission qu'on aurait pu appeler la rame, notamment la fin, avec un exercice de style, le passage de micro. Donc je pense qu'à peu près en une heure d'émission, il doit y avoir au moins 20 minutes de passage de micro.
Je vous promets que la prochaine interview que je fais de ton verre ne sera pas sur son trombone, mais sur son slip, ce qui intéressera sûrement beaucoup plus nos auditrices.
Mais aujourd'hui, c'était pas possible parce que je porte un caleçon.
J'ai cru que t'allais dire un slip à coulisses, mais bon...
On va arrêter là, ça va déraper. Le sujet, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Non, je déconne. Donc je crois que Valérie avait une idée pour le débat de la prochaine émission.
Vas-y. Je voulais proposer comme sujet bêtement l'intimité. Est-ce que plus on est de fous, plus on rit, ou est-ce que quand on est moins nombreux, c'est plus agréable? Vous voyez, quelque chose comme ça. Un vrai sujet, je vous laisse réfléchir dessus. Je pense que déjà on est tous les trois assez experts.
Oui, la solitude des fois c'est bon. Donc bah, on va réfléchir, hein. On va convoquer une assemblée générale. Ça c'est les coulisses de l'émission qu'on vous raconte un petit peu, et puis on va voter, et voilà, encore un sujet à la con, on va encore se retrouver à trois. Donc je voudrais remercier comme d'habitude monsieur Yann Beaujouan qui a composé, interprété les jingles, et qu'on espère bientôt voir dans l'émission quand il sera de passage à Cajar, et nous aussi.
Entendre.
Oui, eux ils vont l'entendre, mais nous on va le voir. Parce qu'on l'entend déjà depuis longtemps. D'accord ? Bon.
On dit pas eux, on dit vous, tu es en train de t'adresser au public, je te rappelle.
Cher public, je te salue. Donc voilà, eh ben, on va faire un gros au revoir. La prochaine émission courant août 2005, a priori, si tout se passe bien. Et soyez nombreux, portez-vous bien, bonnes vacances, bon travail, bon tout, au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Bonsoir. À bientôt.